Vous écoutez
RMC.
Excellente journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC Radio, RMC Story Télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À l'une ce matin, le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. L'ancien président risque une nouvelle condamnation de prison. Réponse aujourd'hui de la Cour de cassation. Vous verrez que cette fois, on parle de l'affaire Pygmalion. Le casse du Louvre aurait-il pu être évité? Un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité du balcon par lequel sont passés les malfrats. Et une nouvelle affaire d'ingérence russe. Quatre espions, des espions présumés, mis en examen hier soir à Paris.
À peine sorti de prison, Nicolas Sarkozy est sous le coup d'une deuxième condamnation de prison définitive.
Ce serait effectivement la deuxième, lui qui a déjà été condamné définitivement dans l'affaire dite des écoutes. Guillaume Bier, chef du service pour les justices à RMC. Cette fois, c'est la Cour de cassation qui va rendre dans l'après-midi sa décision dans l'affaire Pygmalion. L'affaire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012, déjà condamné en première instance, puis en appel. On va savoir cet après-midi si cette peine est définitive.
Oui, une peine d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis pour financement illégal de sa campagne 2012. Plus de 42 millions d'euros de dépenses, soit près de 2 fois le plafond autorisé. Un énorme dépassement payé par l'UMP à l'époque à travers des conventions fictives. Nicolas Sarkozy lui a toujours contesté toute responsabilité dans cette explosion de ses dépenses de campagne. Mais tout à l'heure, la Cour de cassation, comme toujours, ne se prononcera pas sur le fond de l'affaire. Elle dira si le droit a bien été respecté lors de la condamnation en appel. Si tel est le cas, eh bien l'ancien président ne retournera pas en prison. Sa peine sera automatiquement aménagée, par exemple sous bracelet électronique à domicile, dont il pourra demander rapidement la levée puisqu'il a désormais plus de 70 ans.
Le casse du Louvre, le mois dernier, aurait-il pu être évité? Eh bien, la réponse est oui. Maintenant que le quatrième suspect du commando a été arrêté, le journal Le Monde révèle, Pierre Bazin pour RMC, qu'un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité donc du balcon par lequel sont passés les malfrats.
Oui, dans ce rapport commandé en 2018 aux experts de Van Cleef & Arpels, que nos confrères du Monde ont pu consulter, les auteurs mentionnent très précisément que le balcon utilisé par les cambrioleurs il y a un mois est un point de vulnérabilité du musée. Ils vont même jusqu'à préciser que l'utilisation d'un monte-charge faciliterait l'accès au balcon et l'entrée dans le Louvre. En 2018, les auteurs du rapport détaillaient donc précisément sur 2 pages le scénario qui allait être utilisé 7 ans plus tard par les cambrioleurs. Il est même précisé que la zone exploitée par les voleurs est l'une des plus vulnérables, notamment parce qu'elle n'est pas totalement couverte par les caméras de sécurité. Un rapport qui interpelle donc et que l'actuelle direction du Louvre n'aurait découvert qu'après le vol des bijoux.
Il y a cette nouvelle affaire d'ingérence russe à Paris. Pourquoi ? Parce que 4 personnes ont été mises en examen et 3 d'entre elles viennent d'ailleurs de passer une première nuit en prison. Romain Houck pour RMC, pourquoi ? Pour des soupçons d'ingérence et d'espionnage au profit de Moscou.
Oui, l'une de ces personnes est un Russe de 40 ans filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de coller des affiches à la gloire de la Russie sur l'Arc de Triomphe. C'était début septembre, un acte qui va mettre en lumière auprès des enquêteurs toute une nébuleuse pro-russe soupçonnée d'espionnage, car l'homme aux affiches va, juste après les avoir collées, en rendre compte à Anna Novikova, franco-russe originaire de Sibérie. Elle vit à Pau. Elle est dans le viseur des services de renseignement depuis au moins le début de l'année. Pourquoi ? Eh bien, cette femme est la fondatrice de SOS Donbass, une association présentée comme une organisation d'aide humanitaire qui collecte des fonds pour aider cette région de l'est de l'Ukraine, ravagée par la guerre, mais qui serait en fait, selon les renseignements, une couverture à ses activités d'espionnage. Anna Novikova aurait approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. C'est l'objet d'une enquête préliminaire ouverte il y a plusieurs mois. 2 autres membres de cette association ont été mis en examen dans cette énième affaire de possible ingérence russe.
Concernant le sort de la guerre en Ukraine, le Kremlin confirme ce matin la visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain qui a rédigé le plan de paix. Sera peut-être même en compagnie du gendre de Donald Trump, gendre qui avait négocié le cessez-le-feu à Gaza. Une des informations de la nuit, c'est le géant de l'informatique HP qui annonce la suppression de 4 à 6 000 emplois dans les prochaines années partout dans le monde, des employés qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'une aussi grande entreprise fait publiquement le lien entre réduction du personnel et intelligence artificielle. L'inquiétude à nouveau d'ailleurs des salariés d'Auchan. Un an seulement après le plan social qui les a déjà concernés, eh bien le distributeur en difficulté à la tête d'Auchan annonce son projet de changement de bannière. Près de 300 supermarchés qui viendraient des Intermarchés ou des Netto. Plus de 11 000 salariés sont concernés.
Et puis c'est la drogue facile d'accès, celle qu'on trouve dans les rayons de supermarchés. RMC a enquêté sur les ravages et la prise en charge des consommateurs du protoxyde d'azote.
Oui, surnommé bien souvent le gaz hilarant. Inès Zegloul, c'est vous qui avez enquêté pour RMC sur les séquelles laissées sur la santé de ceux qui en consomment. Vous vous êtes rendu pour ça dans une clinique de rééducation de Mantes-la-Jolie, c'est près de Paris. Clinique qui s'occupe justement de ces consommateurs.
Oui, des consommateurs tous pris en charge par l'unité de rééducation neurologique au programme tapis roulant, escalier, exercice de mobilité, d'équilibre. Certains sont hospitalisés nuit et jour pendant des mois. Au deuxième étage de l'établissement, j'y ai par exemple rencontré un jeune homme, 22 ans seulement. Pendant 3-4 ans, il a consommé en moyenne 4 bonbottes de protoxyde de la taille d'une gourde par jour.
À ce moment-là, c'était juste pour s'amuser, quoi. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans les jambes. Ça arrivait aux mains, au cerveau, au dos, à la moelle épinière, des problèmes de mémoire, paranoïa. Je faisais du foot, mais depuis que j'ai ça, j'ai pas essayé d'en refaire, quoi. Parce que je sais très bien que je vais pas réussir à taper dans le ballon. Depuis que j'ai ça, quand même, j'ai perdu, on va dire, 2 ou 3 ans.
De ta vie?
De ma vie. Je me dis pourquoi j'ai pris ça, en fait. Très bousillé la santé, en fait.
Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à séjourner dans l'établissement avec des séquelles similaires.
Oui, ils ont en moyenne 18 à 25 ans, mais il y a de plus en plus d'ados de 15 à 16 ans, constate la direction de la clinique. C'est une déferlante, me confie le docteur Khaled, spécialiste en charge de l'unité.
On constate tous, de Marseille à Lille, tous les hôpitaux sont touchés par l'accélération de ce phénomène. Et donc, relativement à ce que je voyais moi-même en 2017, c'est un cas par an, un seul cas par an. À passer à 5, 6 cas, 10 cas parfois par an, c'est une différence énorme.
Et c'est pourquoi il appelle les pouvoirs publics à faire de la prévention dans les établissements scolaires, à agir plus sévèrement. L'interdiction de vente aux mineurs ne suffit plus, dit-il. Il faut interdire totalement la vente de protoxyde.
C'était le choix de la rédaction signée Inès Zegloul ce matin sur RMC. Il y a de l'euphorie depuis hier soir à Marseille, qui s'est complètement relancée en football en Ligue des Champions en battant Newcastle de 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On a vécu ça sur RMC. On vous retrouve d'ailleurs en direct de Marseille. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef foot à RMC. Vous avez commenté le match et vous nous dites que c'est une victoire qui change tout.
Ah oui, elle change tout au classement d'abord. Avec 6 points à 3 matchs de la fin, l'OM peut désormais croire légitimement à une qualification en barrage. Mais cette victoire d'hier change tout, surtout dans les têtes. Car le doute qui pouvait s'emparer des têtes marseillaises pendant la première période s'est dissipé. Ils ont bien le niveau de la Ligue des Champions. Après 2 défaites contre des adversaires abordables, les joueurs devaient une revanche au public du Vélodrome. Mission accomplie grâce à une grosse force mentale symbolisée par les cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang. Même après des occasions ratées, l'attaquant n'a pas sombré. Il a mis doublé qui restera dans les mémoires de supporters. Il faudra maintenant afficher le même visage en Belgique contre l'Entente Saint-Gilloise lors de la prochaine journée pour rendre un peu plus concret cet avenir européen.
À 21h, on verra ça d'ailleurs sur RMC. C'est Paris qui jouera contre Tottenham pour la 500e du capitaine brésilien Marquinhos. Et avant ça, à 18h45, Monaco jouera chez les Chypriotes de Paphos. Une des curiosités cette saison de la Ligue des Champions.
C'était le journal de Quentin Vinet. 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel,
à tous.
Les grandes manœuvres continuent. Auchan. Auchan va céder la quasi-totalité de ses magasins à la maison mère d'Intermarché.
Alors, il y a encore quelques étapes à franchir, hein, comme les discussions avec les représentants du personnel et le feu vert des autorités de la concurrence, mais sauf coup de théâtre, d'ici la fin 2026, 261 supermarchés Auchan vont passer sous bannière Intermarché ou Netto, soit tous les supermarchés Auchan, sauf ceux de Corse et la trentaine déjà franchisés. Alors attention, hein, on parle bien des supermarchés qui sont les moyennes grande surface, on est entre 400 et 2500 mètres carrés. On ne parle pas des hypermarchés. Et ça n'est pas un rachat. En fait, l'enseigne et les produits dans le magasin seront Intermarché ou Netto, mais les salariés resteront affiliés à Auchan et le chiffre d'affaires ira aussi dans les caisses d'Auchan. C'est à peu plus de 3 milliards d'euros aujourd'hui.
Et nous, quand on fait nos courses, on aura quelque chose à y gagner ?
Alors, nous, ce qu'on va avoir à y gagner, c'est des prix plus bas. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que quand vous faites le comparatif de prix, l'enseigne la moins chère, c'est Leclerc. Les supermarchés d'Intermarché, donc des mousquetaires, c'est 5 à 6% plus cher. Si vous prenez les supermarchés Auchan, ils sont quasiment 15% plus cher. C'est de loin les plus élevés aujourd'hui. Donc, si vous imaginez que vous basculez en prix Intermarché, ça veut dire que vous pouvez espérer, quand vous alliez, par exemple, dans un supermarché Auchan, si ça bascule Intermarché, bah, vous pourrez trouver des prix qui sont 6 à 8% plus bas.
Ça, c'est pour nous.
Oui.
Et si on se met maintenant à la place d'Auchan et d'Intermarché, est-ce que eux, ils ont quelque chose à y dire?
Alors, Auchan estime que ces supermarchés seront plus performants grâce à Intermarché, parce que Intermarché a le vent en poupe, que ses produits sont moins chers, et donc que la clientèle va revenir. Et du coup, Auchan se dit, bah, chouette, je vais pouvoir me concentrer sur mon plus gros défi qui est de remettre en selle mes hypermarchés. Et puis, le grand gagnant, c'est encore une fois les mousquetaires. Hein. Avec cette opération, ils vont approcher les 20% de parts de marché, talonner Carrefour et puis se renforcer sur le créneau des supermarchés qui est aujourd'hui le créneau qui est le plus porteur par rapport à quand même des hypermarchés qui sont en difficulté. C'est ce qui fait la fragilité de Leclerc aussi. Hein. Leclerc, ils sont très très forts sur les hypermarchés, mais c'est plus le modèle qui a le vent en poupe aujourd'hui.
Merci Emmanuel Lechypre.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud de Manche nous rejoint. Et puis à 8h30, menace russe, retour du service militaire. François Hollande sera mon invité. Mais je lui demanderai quand même si d'un côté il faut se préparer à la guerre et si de l'autre, franchement, on peut continuer à se payer le luxe de ce spectacle affligeant sur le budget. Et puis juste après François Hollande, vous retrouverez Nicolas Canteloup comme chaque jour à 8h50. À suivre donc, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche qui nous rejoint, il est 8h13.
Et oui, bonjour. Ah, bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. Ah. On va rigoler.
Ouais.
Tiens,
et
Apolline.
En moins dangereux.
Est-ce que vous...
moins dangereux.
En moins dangereux, ouais. Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie.
Ah.
Où le grand favori pour les élections du jour s'appelle Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si. Rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, dépend au fond, le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona. Il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël.
C'est
ce chevalier qui expliquait ça tout à l'heure. Très belle chronique d'Arthur et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué « Je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. » Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler
vaguement,
sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Bref, sans transition. Alors, désolé, sans transition, mais c'est l'actu. Selon un sondage, Jordan Bardella gagnerait la présidentielle de 2020. 2027 dans tous les cas de figure. C'est un bon candidat, Jordan Bardella. Un bon président, mais un bon candidat, ça c'est certain. Vous savez qu'on est tellement désespérés dans ce pays qu'on se dit, tiens, un type de 28 ans qui n'a pas fait d'études et qui n'a aucune expérience professionnelle, et si c'était ça la solution? La France est une cougar en fait. Elle est prête à se jeter dans les bras d'un prof de body pump parce que tous les mecs, ça lui fait pas envie. Donc Éric Zemmour, il s'est mis à la muscu tout de suite. Il a fait, ok, bah très bien, si c'est ça que veulent les Français, on va leur donner. Elle est où mon haltère de 2 kilos pour le développer couché? Allez hop, c'est parti. Mon thorax. Et Marine Le Pen a très bien pris ce sondage puisqu'elle est allée voir Jordan Bardella et elle lui a jeté la litière du chat dans la gueule. Petit con ! Quatre tentatives et voilà, sondage de merde ! Allez Marine, tu te consoleras avec Matignon, c'est bien aussi.
Arnaud, quatre nouvelles personnes suspectées d'avoir participé au braquage du Louvre ont été arrêtées.
Oui, mais on n'a toujours pas de nouvelles des bijoux.
Non.
Voilà. Et par contre, la présidente du Louvre a annoncé 20 nouvelles mesures pour mieux sécuriser le musée. Alors, première mesure, fermer à clé.
C'est vrai,
c'est
bien.
C'est vrai, c'est pas mal. Deuxième mesure, ne pas mettre la clé sous le paillasson. Troisième mesure, des travaux. Vous avez vu, il y a une autre galerie qui a été fermée. Alors ça, c'est à cause de la vétusté du plancher des bureaux occupés par les salariés. Alors, heureusement, c'est des fonctionnaires, ils vont pas au bureau. Mais imaginez... Imaginez un dingue. Pris d'un coup de folie un matin. Tiens, j'irai bien bosser ce matin. Et là, alors l'architecte en chef du musée a déclaré, c'est bon, ça va pas s'effondrer. Et c'est rassurant, je trouve, qu'ils le disent comme ça, qu'ils soient là. Oh, ça va. Si on marche pas bêtement dessus, ça risque rien. Par contre, s'il y a une mouche qui se pose, alors là, la moitié du Louvre sous la Seine, elle aura de la gueule, le radeau de la Méduse, comme ça. La galerie fermée en question, c'est la galerie Campana. La galerie Campana qui habite une collection de céramique de la Grèce antique. Bon, c'est pas la plus visitée. Celle-là, ils peuvent carrément laisser les fenêtres ouvertes parce que l'assiette à soupe de Platon ou le compas en terre cuite de Pythagore ou le plateau à fromage d'Alain Duhamel.
Oh non!
Tu risques pas de te les faire voler tout de suite, quoi. À part un prof d'histoire expert de la céramique au Péloponnèse en moins 5000.
C'est dur à dire Péloponnèse.
Ouais, c'est pas évident. Je suis fatigué. Mais il y en a qu'un en France de gars comme ça. Donc l'enquête sera vite bouclée. Bref, en termes de sécurité, ça laisse vraiment à désirer là-bas. Est-ce que vous avez vu? C'était quand même génial. Les deux Belges qui ont accroché leur portrait dans la salle de la Joconde. Il y a deux TikTokers belges qui sont venus. Ils ont rajouté un tableau. Deux Belges qui aiment se foutre de notre gueule. J'ai une piste. Je pense qu'Emmanuel Macron va recevoir un coup de fil dans pas longtemps. Allô, Emmanuel. Devine donc qui c'est.
Bonjour, Emmanuel. C'est le roi Philippe et la reine Mathilde.
Bonjour, j'avais reconnu. Excusez-moi, je suis en double appel avec Zelensky pour savoir s'il veut toujours mes rafales, parce que malheureusement, la paix s'approche. Oh, tu me feras toujours rire. Toi, tu vends tes avions à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu sais à qui tu me fais penser? Oh, la dame qui a cru épouser Brad Pitt, là. T'es un rigolo, évidemment. Hey, Emmanuel, t'as vu quand t'avais fait une blague? On t'a rajouté un tableau dans ton musée pourri. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que ça nous a fait rigoler? Et tu sais que c'est pas la première fois que je te fais le coup, hein. Quand je suis venu l'année dernière, tu sais, quand on s'est rencontrés avec Bobonne, tu nous as fait visiter le centre Pompidou avec tes œuvres bizarres de bananes scotchées au mur et je ne sais quoi. Et à côté de l'urinoir de Duchamp, en fait, j'avais dessiné un zizi avec un feutre que j'avais appelé Portrait de Brigitte. J'ai rigolé.
Oh, Philippe! Arrête de colporter cette rumeur ridicule. Ça suffit maintenant.
Et tu sais quoi, Emmanuel? Il y est encore, hein. J'ai regardé, c'est coté à 300 000 balles, le machin. Pauvre Emmanuel, pauvre Emmanuel. Allez, à demain.
À demain, mon dimanche. Il est 8h19, on se retrouve dans un instant. Mon auditeur, j'allais dire François Hollande, mais vous n'êtes pas François Hollande, Tristan. Bonjour, Tristan. Tristan, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Tristan. Tristan qui est en Essonne. Vous êtes expert pour une compagnie d'assurance. Vous vouliez réagir à ces interdictions des SUV en ville.
Ouais, tout à fait. Bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe. Non, ça me fait doucement rigoler puisque en fait j'ai écouté David Béliard ce matin qui expliquait qu'un choc suite à un SUV augmentait de 44% les chances de décès. Sauf que là, il interdit pas la circulation, il interdit le stationnement. Donc ça change en rien cette statistique. Donc
c'est le moment du garage. C'est le moment où on se gare. On a le droit, on aurait le droit en effet de rouler, mais pas de se garer.
Voilà, mais bon, moi après, voilà, j'ai, à titre personnel, j'ai un véhicule de fonction qui m'est donné par mon employeur, qui est un véhicule électrique. J'ai pas trop le choix. C'est une marque française. J'ai le choix. C'est des numéros, hein, 3008 ou 5008. Donc c'est des SUV. Je tourne dans Paris. Qu'est-ce que je fais si je vais faire mon travail dans Paris? Où est-ce que je me gare? J'ai pas des parkings souterrains à proximité. Donc
c'est ce qu'il vous dit. Il faudrait vous garer dans un parking souterrain, mais pas le droit de se garer en ville.
Moi, les trois quarts du temps, je me garde dans la rue, là où il y a des bornes.
Je vous avoue que je trouve cette histoire de plus en plus complexe, effectivement, sur la question d'ailleurs si l'argument c'est vraiment la dangerosité quand on se gare. Je trouve par exemple les voitures électriques, le fait de pas les entendre, pour moi ça c'est un vrai souci et une inquiétude, y compris pour les enfants dans la rue par exemple. Donc si on commence à réfléchir à ce genre de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Tristan en tout cas. Tristan qui n'était pas François Hollande donc, mais dans un instant mon invité en effet ce sera François Hollande, l'ancien président de la République. Je l'interroge sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr l'ancien président de la République et vous êtes aujourd'hui député socialiste. Est-ce qu'il est possible que nous ayons passé notre dernier été en paix ?
Oui, en paix, au sens où il n'y aura pas la guerre sur le continent européen l'été prochain.
Si je vous pose cette question, oui, c'est parce que l'expression, elle a été utilisée par le ministre de la Défense allemand. Voilà les mots qu'il a utilisés. Il a dit « Les experts militaires et les services de renseignement peuvent estimer approximativement à quelle date la Russie aura reconstitué ses forces armées au point d'être capable de lancer une attaque contre un membre de l'OTAN ». Certes, nous avions affirmé que cela ne se produirait qu'à partir de 2029, mais cependant, ajoute-t-il, certains estiment désormais que c'est envisageable dès 2028 et même que nous avons déjà connu notre dernier été de paix.
Oui, on peut avoir des propos. Ce qui compte, c'est des actes. Si l'on veut éviter ces scénarios qui sont effectivement épouvantables, l'idée de la guerre par rapport à des générations qui n'ont connu que la paix. Si on veut éviter ces scénarios, il faut agir tout de suite. C'est ça le sens de la politique, qu'on soit ministre allemand ou qu'on soit ministre ici en France ou responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il y a l'Ukraine. On pourrait considérer que l'Ukraine, c'est loin. Non, l'Ukraine, c'est à côté. Et si Vladimir Poutine obtient gain de cause sur l'Ukraine, c'est-à-dire, finalement, absorbe une partie de l'Ukraine, et n'y ait pas de garantie de sécurité donnée aux Ukrainiens, ça veut dire qu'il continuera. C'est en ce sens que la menace est sérieuse, c'est en ce sens qu'il y a un danger. Mais nous pouvons agir, nous pouvons empêcher Vladimir Poutine de continuer son offensive, d'imposer un cessez-le-feu et de donner des garanties de sécurité.
On va y revenir, mais sur le scénario, comme vous dites, est-ce que ce scénario évoqué d'une guerre, au fond, dès l'année qui vient, c'est un scénario plausible, ou est-ce, en tout cas, est-ce un scénario qu'on doit prendre au sérieux?
Faut toujours prendre au sérieux toutes les menaces. Il y a menaces. Mais alors, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faille affoler les Français, parce que ça fait partie précisément de la sidération que Vladimir Poutine veut mener. C'est-à-dire toujours essayer d'impressionner. Et donc, quand on impressionne, on fait peur. Et quand on fait peur, généralement, on se replie. C'est exactement ce qui se produit. Avec des propos comme ça, qui laissent entendre que la guerre serait là, quelle est la réaction ? J'épargne autant qu'il est possible, je vais bientôt stocker des marchandises, et puis je vais demander qu'on ferme les frontières le plus rapidement possible, et les courants pacifistes n'en seront qu'encourager. Eh bien moi, je ne suis pas du tout sur cette vision-là et sur cette conception-là. Il faut être totalement lucide sur la question de Poutine et de la Russie. Je l'ai été en son temps. Il faut être totalement déterminé pour l'arrêter. Mais il faut en même temps se préparer à toutes les hypothèses. Mais il ne s'agit pas d'affoler les opinions publiques. C'est ce que cherche Vladimir Poutine.
Avouez que le chemin est un peu étroit. Et quand vous entendez les propos du chef d'état-major des armées ici en France, qui a dit qu'il fallait accepter l'idée de devoir perdre ses enfants, comment vous avez réagi ?
Le chef d'état-major, il est dans son rôle quand il évoque le danger, quand il fait une analyse sur ce que sont les capacités militaires de la Russie et qu'il y ait aussi d'autres menaces. Il n'y a pas que la menace de la Russie, il y a la menace aussi, c'est ce qui se passe en Afrique en ce moment avec un courant djihadiste qui peut prendre Bamako, je vous rappelle que ce que j'avais fait pour l'empêcher. Il y a aussi la stratégie chinoise qui est aujourd'hui offensive, pas sur notre continent, mais sur la mer de Chine, voire sur Taïwan. Il y a ce contexte stratégique. Ensuite, qu'il ait pu dire qu'il fallait que nos soldats soient préparés, mais attention, il y a des formules, il y a des expressions. Les enfants sont pas les soldats, ou plus exactement, les soldats peuvent être compris comme des enfants de la patrie. Mais là aussi, attention aux mots qui sont utilisés. Quand il s'agit de mobiliser les Français sur une dimension de défense, c'est légitime. Quand il s'agit de prendre un mot qui n'est pas forcément le bon dans le contexte, là, je pense qu'il peut y avoir des effets contraires.
Et
il y
a eu des effets contraires. Sur le choix du mot, vous auriez dit éventuellement nos soldats, mais pas nos enfants.
Bah, j'ai, comme président de la République, vous avez rappelé ce qui a été ma responsabilité, j'ai envoyé des soldats combattre. Il y a eu des morts de soldats. Il y a eu des morts au Mali. Et avant, il y avait eu des morts, vous savez, en Afghanistan, même si j'ai mis fin à la présence des troupes françaises. Il y a eu des morts. Donc, à partir de là, nous savons qu'il y a toujours des opérations militaires qui peuvent engendrer, hélas, des tragédies. Mais les soldats s'engagent. C'est leur dignité d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été extrêmement saisi par ce que me disaient les familles après la mort de soldats. C'était sa vocation, c'était sa volonté, c'était son engagement. Mais nous devons faire attention, être président de la République, c'est effectivement décider de l'envoi de soldats. Mais parler des enfants, pour beaucoup qui ont entendu ces propos, c'était le retour de la conscription, l'envoi de forces françaises dans un combat qui n'était pas nécessairement prévu. Donc c'est pour ça que ça a suscité, et certains ont exagéré.
Quand vous dites certains,
on le sait bien.
C'est LFI et RN qui sûr, immédiatement ont réagi.
Comme ce sont des courants faussement pacifistes, ce sont des courants qui, en définitive, laisse la Russie ou laisse la Chine continuer leurs opérations. Faut être conscient quand même. Donc à partir de là, ils ont saisi.
Pour vous, ils sont pro-russes. Vous iriez jusqu'à dire que le LFI et RN sont des partis pro-russes.
Ils l'ont été avant l'intervention de la Russie en Ukraine. Enfin, faut se souvenir des liens qui existaient entre le Rassemblement national et le pouvoir russe, et de la sympathie que pouvait exprimer également LFI à l'égard de ce qu'était le comportement de la Russie. Ou plus exactement, ils sont anti-OTAN, anti-démocratie occidentale assurant leur propre défense. C'est ça le leur courant. Et c'est pour ça que c'est très important. Ce qui va se passer dans les prochains mois en France, c'est de savoir si nous sommes lucides sur les menaces qui sont autour de nous, sans tomber dans je ne sais quelle hystérie. Et deuxièmement, que nous soyons capables de savoir qui va être président de la République en 2027.
J'imagine donc que les deux sont parfaitement liés. Vous pensez bien qu'on va y venir. Mais lorsque vous avez dit le mot conscription, il y a cette annonce attendue du président Macron sur un retour du service militaire. Alors, sous une formule de service militaire volontaire, y êtes-vous favorable ?
Alors là, soyons précis. Il y a une armée professionnelle en France depuis 1995, l'annonce de Jacques Chirac qui a supprimé la conscription. La conscription, c'était l'obligation pour les jeunes hommes de faire leur service militaire. Dans ma génération, nous faisions le service militaire. L'armée est donc professionnelle. Elle présente 200 000 soldats qui sont capables de se projeter, qui sont pas capables, s'il y a une attaque, d'y répondre. Et puis, il y a ce qu'on appelle la réserve. La réserve, c'est 50 000 personnes qui peuvent être mobilisées, qui s'entraînent pour être mobilisées, le cas échéant. S'il faut proposer un service militaire volontaire de quelques milliers de personnes, oui, ça peut encourager la réserve. C'est pas ces personnes-là, c'est pas ces volontaires-là qui seraient dans des opérations extérieures ou dans des opérations militaires compliquées et qui seraient par exemple présents en Pologne pour garantir la sécurité des
Ukrainiens. Ça veut dire que notre défense ne doit pas reposer là-dessus.
Mais elle ne peut pas reposer là-dessus. Elle repose sur une armée de professionnels, d'ailleurs formés, entraînés, aguerris, et c'est ça le rôle de l'armée française aujourd'hui.
Mais vous soutiendrez cette proposition,
oui, cette idée, elle vient s'ajouter à d'autres qui n'avaient pas marché, il faut bien le dire, le service national universel. Bon, on peut y ajouter une dimension civique aussi, hein. Et puis, j'étais très favorable, moi j'ai beaucoup poussé le service civique, mais pour l'instant, là,
enfin,
il s'agit d'une dimension militaire.
C'est quand même du service
militaire.
Civique au SNU, et là, un service volontaire, oui, ça, il vaut mieux pas que ça ait la même destinée.
Non, mais par exemple, pendant la période des attentats, il y a donc 10 ans, j'avais considérablement gonflé les réserves. C'est un peu le même processus. Il faut permettre à des personnes qui sont volontaires de pouvoir remplir un certain nombre de fonctions, de tâches, mais qui ne sont pas des tâches liées au combat.
Un mot sur l'Ukraine. Donald Trump, cette nuit, se dit optimiste sur une sortie du conflit Ukraine-Russie. Est-ce que vous partagez cet optimisme ?
Non. Donald Trump, il est à la fois ambivalent. Il veut la paix, mais il est très favorable, pour ne pas dire davantage, à Vladimir Poutine par rapport à Zelensky, et il est versatile. Il fixe des ultimatums, puis il ne les respecte pas. Là, il envoie Monsieur Vitkov, c'est-à-dire son conseiller, qui est franchement, maintenant c'est connu, pro-russe. Donc la paix russe serait en définitive une fausse paix. Ce serait même la poursuite de la guerre.
François Hollande, comment on fait ? Parfois, je me demande si je n'ai pas deux hommes face à moi. Pour être à la fois ce François Hollande empreint de gravité, comme vous l'êtes à l'instant, qui est le François Hollande ancien président, et le François Hollande député sur les rangs de l'Assemblée, au milieu de ce qui ressemble, en tout cas aux yeux des Français, de plus en plus à un véritable théâtre. Comment on fait pour être les deux ?
Si je suis redevenu député, c'était pas par une décision comme ça liée à je ne sais quelle recherche d'avantage ou de statut. Je n'ai aucun besoin. Si je suis redevenu député, c'était pour éviter que l'extrême droite puisse être majoritaire l'année dernière. Eh bien, aujourd'hui, si je reste député, c'est pour faire prévaloir les intérêts du pays tout entier. C'est-à-dire, il doit y avoir un budget à la fin de l'année, parce que la situation est grave. Comment pourrait-on justifier, alors que nous venons d'évoquer les menaces qui pèsent, que nous n'ayons pas d'augmentation de notre budget de la défense, que nos forces armées ne pourraient pas être entretenues, mais je parle aussi de l'éducation, de la santé. Nous avons besoin, non pas des mêmes dépenses que l'année dernière, nous avons besoin d'investissements.
Au moment où
donc,
on parle, ça
je
passe
fais
pas.
En sorte, par ma parole dans les discussions qui peuvent avoir lieu, de faire prévaloir l'idée qu'il faut un compromis et qu'il faut un budget.
Sauf qu'au moment où on se parle, ça ne passe pas. Si ça doit passer, en tout cas par le vote, il est très vraisemblable au moment où on se parle que ce budget ne soit pas voté. Une question se pose, faut-il renoncer à se priver du 49-3?
Ben, nous verrons bien. Pour l'instant, c'était le choix du Premier ministre, c'était aussi la demande
du Parti Socialiste.
Donc, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un compromis par le vote, ce qui serait quand même mieux dans une assemblée, puisque c'est elle qui aura le dernier mot, que les uns et les autres, qui n'ont pas forcément ce qu'ils veulent, puissent trouver le compromis et voter et le budget de la sécurité sociale et le budget du pays. Si nous n'y parvenons pas, je serais tout à fait fâché, mais ça voudrait dire que soit c'est les ordonnances, c'est-à-dire on applique le budget mais dans sa forme initiale, il n'y aurait aucun progrès, soit la loi spéciale, je viens d'évoquer ce que serait une régression en définitive par rapport à nos objectifs, soit ça sera si le Parti Socialiste considérait que c'était opportun et si le gouvernement y était prêt, il y aurait éventuellement cette formule. Mais c'est trop tôt pour le dire, parce que ça serait dire tout de suite qu'il n'y aura pas de compromis par le vote.
Mais ça veut quand même dire, François Hollande, que vous ne dites pas tout sauf le 49-3. Vous dites, si le réalisme nous oblige à le faire, il vaut mieux un 49-3 que pas de budget.
J'ai été président de la République, vous avez dit qu'il y avait deux personnes, il n'y en a qu'une, je vous le confirme encore. Moi, j'ai utilisé le 49-3, ça n'a pas été forcément populaire. Je l'ai utilisé, donc je ne vais pas récuser ce qui existe dans la Constitution et qui, à un moment, soit sert à forcer la majorité, ce qui n'était pas mon cas, soit, quand il n'y a pas de majorité, à de pouvoir en trouver une. Là, aujourd'hui, s'il devait être utilisé, si on devait solliciter cette procédure, c'est parce que toutes les autres n'auraient pas fonctionné.
Donc, il ne faut pas se priver.
Mais il ne faut jamais se priver d'une disposition constitutionnelle.
Enfin, sauf que là, on avait annoncé qu'on ne l'utiliserait pas.
Mais il est préférable de ne pas l'utiliser. C'est préférable. Et encore aujourd'hui, le Sénat n'a pas terminé son travail. La commission mixte paritaire ne s'est pas encore réunie. Il n'y a pas encore eu de deuxième lecture. Alors, je sais que c'est très compliqué pour les Français. Mais enfin, bon, le 15 ou 20 décembre, il y aura une décision à prendre.
Ce que je trouve très intéressant, François Hollande, c'est que, pour vous avoir suivi les uns et les autres, vous n'avez jamais dit à l'avance que le 49-3 était souhaitable. Donc, il est en effet parfaitement normal que vous ayez tous tout tenté pour éviter le 49-3. La petite différence, c'est que cette fois-ci, de manière très solennelle, le Parti Socialiste avait demandé qu'il n'y ait pas de 49-3. Le Premier ministre s'y était engagé. On arrive au bout du chemin. Certes, il reste encore quelques jours. Mais au fond, au bout du chemin, on se dit, se priver du 49-3 est une erreur.
Si on disait on s'en priverait pour toujours, oui, ce serait une erreur. Si on disait aussi, on ne va pas continuer à chercher un compromis, ce serait une erreur. Parce que le respect du Parlement, même s'il est composé comme on le sait, c'est quand même de faire en sorte qu'il puisse voter un budget de manière claire.
Vous y croyez encore?
J'y crois parce que c'est pas moi d'y croire, c'est aux acteurs de se poser cette question. Est-il responsable ou n'est-il pas responsable de voter ou de ne pas voter un budget dans la situation dans laquelle nous sommes? Bien sûr que ça sera pas un budget de gauche, bien sûr que ça sera pas un budget tel que le gouvernement l'aurait souhaité ou qu'une partie de la droite l'imaginait. Mais ça sera le budget de la France parce que nous avons besoin de ses dépenses et de ses recettes. Et il y aura des efforts à faire, et notamment pour les plus fortunés.
Alors justement, au Sénat, l'un des amendements socialistes qui vient d'être déposé, selon les informations de mes confrères des Échos, ce serait de contraindre les plus fortunés à faire crédit à l'État, à prêter à taux zéro, à l'État, vous soutenez?
D'abord, quand on demande une contribution aux plus fortunés, c'est quand même par l'impôt. C'est ainsi qu'on le fait. D'ailleurs, ça vaut pour les plus fortunés comme pour les autres. On vous demande pas de prêter de l'argent à l'État. On vous demande de payer vos impôts si vous êtes dans les situations qui le justifient. Bah là, c'est la même chose. Il y a des mesures à prendre fiscales sur les plus fortunés. Et puis, il y a une possibilité patriotique qui serait de dire, bah écoutez, vous allez donner, en plus de vos impôts, une partie de votre épargne pour qu'elle soit investie dans les dépenses publiques et remboursée.
Mais ce n'est pas une contribution années. Volontaire, ce serait une contribution obligatoire. C'est-à-dire ce serait vous nous prêtez, mais vous n'avez pas le choix.
Oui, c'est-à-dire vous avez le choix d'abord de payer un impôt quand même, ça vous n'avez pas un choix, c'est même obligatoire. Mmh. Et puis vous avez l'obligation pendant 2 ou 3 ans, c'est ce que proposent des sénateurs, de donner par l'épargne une partie de ce que vous avez pour financer les investissements du pays.
Donc il faut aller vers cet emprunt obligatoire.
On verra, c'est une idée parmi beaucoup d'autres. Je ne sais pas si elle sortira d'ailleurs du débat au Sénat, mais ça fait partie des idées. On n'est pas habitué, parce que généralement, comment ça se passait pour un budget? Le gouvernement présentait un texte, il était très peu corrigé, et puis il était adopté à la fin. Ça, c'est quand on avait une majorité. Maintenant, il n'y a plus de majorité, donc il faut entendre tous ceux qui expriment des propositions ou des initiatives.
Qui peut battre Jordan Bardella? Vous avez vu les dernières études, notamment ce sondage au Doxa d'il y a 2 jours, qui dit que qui qu'on mette face à Jordan Bardella, c'est lui qui gagne.
Oui, écoutez, bon, j'ai été candidat avant d'être président de la République. Les annonces un an et demi avant du candidat victorieux, généralement, ne se vérifient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un mouvement. Ça ne veut pas dire que ses intentions de vote n'aient pas de signification. Je veux dire, rien n'est écrit. Rien n'est écrit, ça veut dire que tout dépendra de la qualité, de l'offre, de la personnalité qui sera, pour ce qui concerne le centre droit ou la gauche, capable de convaincre les Français. Pas de battre Monsieur Bardella. La vie politique, c'est pas de battre les autres, c'est de donner suffisamment d'espoir, de crédibilité, de confiance. La confiance, c'est très important dans le contexte qu'on vient d'évoquer. Sur qui faire reposer notre confiance? Pour agir, pour préparer la paix, pour éviter la guerre, ou pour un moment prendre nos responsabilités? Qui? Eh ben, c'est sur la personne, sur les idées, sur la capacité d'action que les Français jugeront.
Y aura-t-il une primaire? Y êtes-vous favorable?
Je n'ai jamais été favorable aux primaires. Je pense
enfin, ça vous avez plutôt réussi.
Oui, mais dans un parti. C'était une primaire dans le Parti Socialiste. Ça peut toujours arriver. Pour choisir le candidat, c'est normal que les adhérents...
Le ou parti,
les
oui, une sorte de primaire
non,
ouverte
faut
à toute
avoir,
la gauche, non.
Pour une primaire, pour qu'elle soit valide, il faut que ceux qui s'y présentent, celles qui s'y présentent, aient le même programme. Et ben, c'est pas le cas aujourd'hui.
Vous avez dit, François Hollande, que vous étiez redevenu député pour faire battre, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas le RN. On le sent bien dans les dernières études, alors même si vous dites un an et demi avant, oui, mais en tout cas la dynamique du côté du RN, elle est testée partout. Est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre que vous-même vous alliez plus loin? Est-ce que vous envisagez, ou en tout cas est-ce que vous ne fermez pas la porte à l'idée d'être un nouveau candidat?
C'est pas l'annonce de candidature qui fait que les Français soient convaincus. Ce qui compte, c'est la dynamique qui est supposée, non pas simplement enrayer une autre dynamique, mais convaincre les Français que c'est que vers cette force-là qu'il faut aller. Eh bien moi, je vais tout faire pour que dans les prochains mois, c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait une crise supplémentaire ou un chaos, on a besoin de temps jusqu'en 2027, pour que cette force positive, parce qu'il faut
mais
être positif.
Mais vous ne dites
positive.
Pas non, vous ne dites pas non.
Non, moi,
vous
je
dites
veux...
si la chance,
je vais pas rentrer.
Vous l'avez même dit, vous avez dit si la chance est là, il faut la saisir.
Oui, bien sûr, ça fait partie de ce qu'est la vie, mais les Français sont tellement lassés de ces annonces de candidature que c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de créer la force, et puis la personne, vous allez voir, va surgir.
En tout cas, vous y croyez toujours à ce budget. Merci François Hollande d'avoir répondu à mes questions, à la fois ancien président de la République et député socialiste, donc une seule et même personne. 8h47. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Face à Canteloup comme tous les matins, et François Hollande, le vrai, est resté dans ce studio. Rebonjour François Hollande.
Bonjour, bonjour Nicolas Canteloup, merci d'être dans nos studios.
Voilà, tout à fait, exactement. Nicolas Canteloup, donc je le disais, François Hollande est resté avec nous. Je retente ma chance, allez-vous vous présenter en 2027?
Madame de Balère, j'ai bien compris que ce matin, vous jouez avec moi au jeu du chat et de la souris. Mmh. Vous êtes le chat, je suis la souris. Disons-le, une belle souris, quand même. Pour moi, non, l'enjeu, Madame de Balère, n'est pas de l'annoncer, surtout de ne pas l'annoncer. Il faut surtout laisser planer le doute, pour que ce soit repris dans les médias, de façon exponentielle. Mmh. Mais faire planer une souris, c'est pas si simple.
François Hollande, est-ce que vous avez quand même envie d'y aller?
Alors, envie d'y aller, Madame Malherbe, être président, ce n'est pas qu'une volonté. Ce sont des circonstances. Il faut une dynamique. Et là, je ne sens pas la dynamique, je ne sens pas les circonstances dans ce studio bordélique, plein de fils, de micros à des inconnus. Non, il faut une forme de solennité. Ah oui. Car je vous le rappelle, j'étais président de la République. Oui, ça c'est la chose que j'aime bien rappeler régulièrement. Je ne sais pas si je trouve une forme de cajolinothérapie.
C'est ça, tout à fait.
Bien sûr que j'ai envie d'y aller.
Bien sûr.
Pas, franchement, j'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas le dire. C'est comment vous dire, c'est comme une envie pressante. Parfois on a envie d'y aller, mais on peut pas le dire.
Non,
c'est moi.
Voilà.
Mais je voulais surtout être ici pour annoncer la sortie de mon livre pour Noël.
Ah.
Il s'intitule Journal d'un président populaire. Ben quoi, moi aussi, je peux enjoliver un peu. Hein. Le président Sarkozy a été en prison seulement 21 jours. Ben moi, pareil, j'étais populaire 21 jours.
Merci, monsieur Hollande. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui met tellement d'intensité dans sa voix qu'on ne la mesure pas en décibels, mais bien sur l'échelle de Richter. C'est parti pour les titres. Après le départ du zoo de Beauval, de Wanwan et Wanzi pour la Chine, il ne reste plus en France qu'un seul panda adulte, Jean-Pierre Raffarin. Et il est en ligne avec nous.
Oui, bonjour, monsieur Texer. Bonjour à François Hollande, que j'ai apprécié beaucoup, bien sûr, bien évidemment. Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-S. Rassurez-vous, nos amis chinois enverront bientôt aux zoos de Beauval en échange d'autres espèces en voie d'extinction en Chine. Ils nous enverront donc chez nous un couple de Tibétains, trois Ouïghours et un exemplaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Merci Jean-Pierre Raffarin. Reprenez Thibault.
Oui, la prime de Noël sera donc versée dès le 16 décembre à plus de 2 millions de familles bénéficiaires. Pascal Praud a souhaité réagir.
Écoutez, oui, une prime de Noël, on ne peut pas dire non, oui, c'est très bien, mais est-on sûr qu'elle sera versée uniquement à des gens qui ont fait leur baptême?
Ah, bien sûr, c'est la question.
Mais oui, mais parce qu'il faut le rappeler, monsieur Hollande le sait, excusez-moi, mais Noël, c'est chrétien. Alors, comment fait-on avec ceux qui ne le sont pas, hein? On met en place une prime de Ramadan, c'est ça? Oui, hein? Écoutez, je ne suis pas obtus, alors, d'accord, allons-y, donnons-leur une date, quelques pois chiches et un verre de lait de chameau, de chamelle. Oui, excusez-moi, je ne suis pas expert de cette culture.
Merci Pascal Praud. Hier, à la foire de Vesoul, Jordan Bardella s'est fait enfariner. On n'a pas les images, mais nous avons Marine Le Pen avec nous. Hein.
T'as voulu voir Vesoul et t'as pas vu Vesoul. Bon, Jordan, il n'a pas vu Vesoul, mais oui, il a vu la farine dans les oeils. Je soupçonne et quelle est la marque de cette farine? C'est la farine Francine Insoumise. Pardon, non, je me moque de Jordan, mais c'est vrai que je suis mal placé, parce que moi aussi j'ai vécu ça, et ce n'est pas très agréable.
Ah bon? Vous vous êtes fait enfariner, Marine Le Pen?
Mais oui, souvenez-vous, tout le monde l'a vu. Au débat du deuxième tour, je suis arrivé la gueule enfarinée. Alors...
Merci Marine Le Pen.
Ce n'était pas le cas de M. Hollande, qui s'était bien préparé.
Faites enfariner d'ailleurs. Marine Le Pen, Emmanuel Macron a pris la parole hier depuis l'Afrique du Sud.
Oui. Pardon.
Oui, la parole.
Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Pardon, j'étais totalement perturbé. C'est vrai que parce que je n'ai pas de discours sous les yeux, je suis moins à l'impro que Monsieur Hollande. Écoutez, j'ai rappelé que je voulais, et je la veux. Je veux la paix. Mm. D'ailleurs, si j'ai quitté la France pour passer 5 jours en Afrique du Sud, c'est justement pour avoir la paix.
Oui, c'est tout à fait ça. Vous confirmez qu'en cas de conflit, vous n'enverrez pas nos enfants sur le front?
Écoutez, j'ai déjà répondu à cette question, madame de Malherbe. Pas de confusion. Nous ne prévoyons pas du tout d'envoyer nos jeunes là-bas. On a besoin de militaires aguerris, de militaires de carrière, de professionnels, pas de gamins capricieux qui vont chouiner parce qu'ils n'auront pas assez 5G hein, pour scroller sur TikTok. Hein. Parce que je vous préviens, le général Mandon, vous l'avez compris, c'est pas un rigolo de kermesse. C'est tolérance zéro. C'est pas l'école Montessori, ok?
Merci monsieur le Président. Dans l'affaire du cambriolage du Louvre, 4 nouvelles personnes ont été interpellées hier et on va faire le point avec la procureure de Paris, Laure Becchio. Madame Becchio!
Oui?
C'est à moi.
Oui.
C'est à moi.
Oui. Oui, on vous entend.
On m'entend. Alors le point. Nous avons une bonne. Nous avons arrêté donc de nouveaux suspects.
Ah. Hein,
voilà. Donc, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous révéler leur nombre. Je peux juste vous dire qu'ils étaient au nombre de 4, 3 hommes et 2 femmes. Peut-être avez-vous des questions.
Oui, oui, Madame Becquiot, c'est Apolline de Malherbe ici, RMC. Est-ce que les enquêteurs sont toujours aussi mobilisés qu'au début?
Alors, écoute, alors je suis très à l'aise pour répondre. Hein. Donc l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, notamment en cours de maths, hein, pour essayer de résoudre notre problème. Sachant qu'une nacelle A se déplace à la vitesse d'un kilomètre en plan incliné et qu'une disqueuse B peut atteindre de 12 000 tours minute, calculez au bout de combien de temps on va retrouver ces putains de bijoux.
Est-ce qu'on a une idée d'où ils peuvent se trouver ces bijoux?
Alors, par rapport aux bijoux, je suis très à l'aise pour vous répondre. Le premier mot qui me vient, c'est... Voilà. Mais nous avons quand même des éléments. Hein. On sait qu'ils sont, d'après la police scientifique, nous savons qu'ils sont précieux. Deuxième élément, donc bijoux sous genou caillou. Ils sont invariables. Voilà. Et surtout, ils sont introuvables. Voilà. Alors, je vous annonce que comme jusqu'à on a paumé les bijoux, on a paumé de Malherbe aussi. Alors, je vous annonce que comme jusqu'à maintenant, nous cherchons les bijoux et nous trouvons que des suspects, nous allons changer de stratégie, nous allons chercher des suspects et peut-être qu'on trouvera les bijoux. En tout cas, tous les services de l'État restent mobilisés. Hein, moi-même, en tant que procureur, la juge d'instruction, le directeur de la police judiciaire, épaulé bien sûr par Julie Lescaut, l'inspecteur Gadget.
Merci. Merci Nicolas Cantu et à demain même.